Bistouri, oui, sur Radio Libertaire 89.4, radio sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Tom ?
Oui, c'est quoi ?
Vous voulez appeler
allô ?
Téléphone. Alors ?
Voilà, donc j'avais choisi un extrait de l'album Playboy, Playgirl par un groupe japonais qui s'appelle Pizzicato 5.
J'adore.
Et le premier, non ? On n'avait pas mentionné ?
Le premier, c'était She Was Never He. Une chanson de Boy George, effectivement.
On adore. Boy George.
Moins, mais.
Toi, tu vieillis, c'est pour ça. On va rappeler le livre, puisqu'on vient de nous le demander, le livre de Maxime Forster s'appelle La différence des sexes à l'épreuve de la République. C'est dans la collection Questions contemporaines. L'éditeur, c'est L'Harmattan. Et le livre a été sorti en 2003, c'est ça ?
C'est ça.
C'est ça.
C'est en 2003, oui.
Donc, troisième partie, enfin deuxième partie, pour le temps, mais...
Bah, du coup, je me souviens plus de ma question, toi.
Mais moi, t'inquiète pas, je m'en souviens très bien.
En tout cas, le livre, pour les auditeurs pour Internet, peuvent le trouver, il est mentionné sur le site, puisque
il est mentionné sur le site, et on a mis la couverture sur la page d'accueil de Bistouri. Voilà, alors, donc on avait fait un petit peu le point sur ton livre. Tu nous disais tout à l'heure que tu étais enseignant à l'école de commerce de Nantes.
Et à Odense, oui.
Et donc, tu avais des étudiants dans un cycle sur les questions d'identité de genre et de transsexualisme.
Effectivement, oui. Une séance est exclusivement consacrée à l'histoire du transsexualisme. C'est une séance où les élèves sont particulièrement, me semble-t-il, intéressés. Ils prennent beaucoup de notes. Mais je veux bien croire que c'est parce que c'est un des cours que je prends le plus de plaisir à enseigner. Et du coup, ça doit se ressentir. Quand un prof est captivé, il lui arrive d'être captivant. Et effectivement, c'est dans un cours intitulé Construction et déconstruction des différences des sexes, c'est quand même particulièrement intéressant d'aborder très concrètement les vies des transsexuels et des transgenres. Parce que là, pour le coup, on n'est plus dans qu'a dit Freud, qu'a écrit Lacan, qu'a compris machin, et pourquoi Ginette n'a pas apprécié. On est très concrètement dans, voilà, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui font le choix de leur liberté et qui, en dépit d'une hostilité foncière, hein, donc on appellera la transphobie, qui malgré tout suivent une trajectoire, et cette trajectoire nous interpelle. Et cette trajectoire, elle a une histoire. Et cette histoire, eh bien, c'est pas les psys qui l'écriront. Et je crois que c'est un des enjeux aujourd'hui de la lutte contre la transphobie, c'est de parler des trans d'un autre point de vue que d'un point de vue qui soit purement autobiographique, soit purement psychiatrique ou psychanalytique, mais d'en parler dans le cadre de ce que j'appellerais les transgender studies, c'est-à-dire vraiment d'un point de vue multidisciplinaire, en parlant du les transsexuels dans le cinéma américain, par exemple, de 1950 à 2005, ou l'indifférence des sexes dans la littérature française, avec par exemple des romans particulièrement intéressants comme Sphinx de Garetha, J'ai inventé ma vie de Bambi, Orlando de Jacqueline Hartmann, qui sont autant de romans qui déconstruisent très concrètement le sexage de l'individu. Donc, parler du transsexualisme, mais autrement qu'avec une rhétorique qui est celle des psys et qui est quand même foncièrement pathologisante et répugnante.
Alors, comment est-ce que toi, qui te définis comme androgyne, comment est-ce que tu situes par rapport à tes travaux, est-ce que tu situes les questions trans, justement vis-à-vis de, enfin, je veux dire, à la fois des questions d'éthique, façon école constructiviste, école essentialiste. Quelle est ta perception, ou bien école pathologisante psychiatrique, pathologisante endocrinologique, est-ce que tu situes les questions trans par rapport à tout ça?
Ben les questions trans sont vraiment très intéressantes, parce qu'effectivement, au sein même des trans, il n'y a pas consensus, et il y a pas mal de débats sur effectivement les essentialistes et les constructivistes. De ce point de vue-là, moi je suis partie prenante, puisque je suis vraiment constructiviste, et j'essaie quand même de présenter la diversité quand même des opinions, ne serait-ce que par devoir d'objectivité. Mais c'est vrai que personnellement, quand j'enseigne ces cours, je prends mon pied parce que je sais que je parle de moi, tout simplement. Et autant je sais que je parle de moi quand je défends les homosexuels, mais je sens que je parle aussi de moi quand je fais du féminisme et que je défends la cause des femmes. Et je sens que je parle de moi aussi quand je suis sur un cours sur le transsexualisme. Et c'est pour ça que je me sens résolument queer, parce que la définition, pour moi, la meilleure définition de la pensée queer, c'est une conception de l'identité sans essence. Un nomadisme vraiment radical des désirs et des identités. Donc, à partir de là, moi, je me sens à l'aise en tant qu'homme et en tant que gay, mais mal à l'aise si je ne suis qu'un homme ou qu'un gay. Je me sens beaucoup plus, et plus ça va, et plus j'ai envie d'ouvrir un petit peu les fenêtres, d'ouvrir la cave et de faire sortir un petit peu tout ce dont je suis porteur, qui ne peut pas, enfin, qui se sentirait vraiment corseté si je n'étais qu'un gay. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un vrai plaisir de me plonger dans tout ce qui est trans, parce que je crois qu'il y a un vent de liberté vraiment incroyable. Et je sais pas jusqu'à quel point je peux le communiquer avec mes élèves, mais en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment. J'ai toujours l'impression d'ouvrir la fenêtre hein, quand je donne un cours comme ça. Et ça me fait effectivement beaucoup de bien. Et je suis vraiment contre une conception de l'enseignement qui est une conception très focue, qui consiste à dire que le chercheur doit être complètement désengagé et qu'il ne sera crédible que pour autant qu'il est objectif, impartial, patati patata. Moi, mon cours, les élèves le savent très bien, il est 100% militant.
Vincent ?
Moi, je veux savoir quel était ton positionnement justement face à tes élèves. Tu mentionnes que ça te concerne
Alors non, ça je leur dis pas. Je leur parle pas de ma vie privée. Ça m'est jamais arrivé pour l'instant d'avoir un élève qui souhaite en savoir plus. Mais je crois en même temps que je mets suffisamment de moi-même et de passion dans ce que j'enseigne pour qu'ils aient pas mal de pistes, en fait, je pense, au niveau de... Si jamais certains veulent me cerner. Mais j'ai pas encore eu de cas de figure où on quitte la sphère du cours pour s'intéresser finalement à ce qui est déterminant pour ce que j'enseigne, à savoir le vécu. Mais de ce point de vue-là, personnellement, je prends jamais l'initiative de parler de ma vie privée.
Non, il s'agissait pas forcément de... Ça se posait pas en termes de vie privée.
Ah d'accord, au niveau de... Est-ce que le prof est trans, par exemple ?
Non, je sais que Marie-Hélène Brossier, quand elle se présente comme activiste sociologue queer, sociologue gwyn, mm-hmm. Sa définition a certainement bougé depuis cette définition-là, mais est-ce que toi tu te positionnes comme ça clairement vis-à-vis de tes élèves, ne serait-ce que pour donner davantage d'impact sur le discours ? Et légitimer la queerisation du mouvement.
Moi, non, explicitement, je me présente pas comme un militant activiste. J'avoue que pour moi, la meilleure façon d'être un militant activiste, c'est précisément de faire de bons cours sur ces sujets-là. Et ensuite, c'est même pas la peine de le mentionner. Je veux dire, l'effet subversif sera attaché précisément à la qualité du cours. Or, ça ne gâche rien, effectivement, sur le papier cadeau de dire, voilà, c'est militant, c'est activiste, c'est queer. Mais moi, je pars du principe qu'effectivement, à partir du moment où j'aurai réussi à faire penser les élèves, à leur faire remettre en question certaines catégories qui, pour eux, ne se prêtaient pas à être remises en question, j'estime que, a posteriori, et non pas a priori, j'aurais fait un travail militant.
Mon autre question, c'est tu te définis comme androgyne, qu'est-ce que ça a comme définition pour toi ?
L'androgyne, de façon, je dirais, étymologique, c'est que y a de l'homme et de la femme, et je suis absolument incapable de dire en quel pourcentage, ça dépend des jours, ça dépend des humeurs. Ce que je sais, c'est que de par mon passé, je traîne une plus grande expression de ma masculinité, et que donc du coup, j'ai fortement envie... de contrebalancer tout ça et de compenser en exprimant un peu plus ce que jusqu'à présent j'ai réprimé ou nuancé. Donc ce que j'appelle mon androgynie, qui est un terme un peu daté, ça fait très 19e, justement à l'époque où aujourd'hui transgenre passerait mieux, ça fait quand même un peu plus post-moderne et branché. Mais androgynie pour...
plus funk quoi.
Voilà, tout simplement, ça fait moins papy. Mais je suis attaché, de toute façon actuellement je suis dans une période très fin 19e, lecture littérature décadente. je me replonge dans un auteur qui devrait, que vous devriez, je pense, adorer, qui s'appelle Rachid. Une femme qui a écrit des romans absolument géniaux sur la, la déconstruction de la différence des sexes. Et donc je me régale, je suis complètement fin 19e et donc mon vocabulaire s'en ressent. Mais donc moi, l'androgynie, c'est un petit peu le cache-misère que j'utiliserai pour essayer de mettre un nom sur le cheminement qui est le mien actuellement et qui fait qu'effectivement je ne peux plus me satisfaire de mon identité gay. Et en ce sens, je me sens très queer parce que cette identité, elle est mignonne, mais elle me suffit pas. Et il faut qu'il y en ait d'autres un petit peu. Et voilà, c'est pour ça qu'on ouvre les fenêtres et qu'on a envie de courir un petit peu dans les champs.